Inflation US-PCE, Reality Check post-Fed ce vendredi 27 septembre. Chers amis, dans cette nouvelle édition du Top Gun, je vous fais un débriefing complet. Suite au Jumbo Fed Cuts de la Réserve fédérale des États-Unis, les nouvelles perspectives de politique monétaire de la Fed qui défend le scénario macro idéal, soft landing plus désinflation. Ce vendredi 27 septembre, Reality Check. Oui, les chiffres vont encore compter. Je suis optimiste pour la mise à jour de l'inflation US-PCE ce vendredi 27 septembre. Je vous fais un topo complet sur l'analyse technique des indices boursiers américains. Et enfin, retour à la case départ des indices boursiers chinois. Oui, c'est une opportunité technique. Oui, c'est une opportunité fondamentale en termes de valorisation. D'ailleurs, je vous fais aussi un topo sur la valo, où en est la valorisation du S&P 500. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Chers amis, je suis donc ravi de vous retrouver. Voilà, nous sommes donc la semaine S plus 1. La Fed a pivoté. C'était le scénario dont je vous ai parlé lundi dernier dans le Top Gun du Jumbo Fed Cut. Très bien. Alors, la Fed est aussi restée mesurée, mais au final, lorsque l'on reprend le communiqué de presse, la conférence de presse de Jérôme Powell, la mise à jour des projections macroéconomiques, la Fed croit au scénario idéal. Oui. La Fed ne croit absolument pas à la récession. Alors que ont explosé ces dernières semaines les articles de mauvais augure, les permabères, ceux qui souhaitent le krach en permanence, les personnes tristes dans leur vie, bref. La Fed, elle nous dit, de quoi vous me parlez? Pas de récession. La Fed a confirmé ses objectifs de croissance économique pour 2024, 2025, 2026. No recession ahead, comme ils disent, hein, avec un accent américain. Je pourrais faire l'accent texan, mais bon, j'ai pas envie de me risquer. Bon, alors, la Réserve fédérale a tout de même revu en hausse ses anticipations de taux de chômage pour l'économie américaine, mais selon elle, le taux de chômage est bas. Elle a revu en baisse les anticipations d'inflation. Elle pense que la cible de la Fed, que sa cible en matière d'inflation sera faite en fin d'année pour l'inflation nominale, pas pour l'inflation sous-jacente. Donc, il ne faut pas non plus croire qu'elle va enchaîner des jumbo Fed cuts. D'ailleurs, il reste d'ici la fin de l'année deux décisions de politique monétaire, le 7 novembre et une fin décembre. Le 7 novembre, au passage, mes 42 ans, mais la Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base. Le marché attend davantage. Au final, les choses restent sous contrôle. C'est ça dont je vous parlais ces dernières semaines. La haute finance n'aime pas les données macro et monétaires dites hors de contrôle. Elle n'aime pas ça. Les choses restent sous contrôle. La Fed, certes, a baissé ses taux de 50 points de base, mais pas pour la mauvaise raison. En tout cas, pas pour le moment. Elle a baissé ses taux de 50 points de base en expliquant qu'elle sanctionnait positivement, sanctionnait dans le sens constater, cocher la case, que la désinflation était bien engagée, mais qu'elle restait encore trop élevée, mais que les taux sont suffisamment élevés, même en les baissant un peu, pour que l'objectif soit fait. Rappelez-vous ici, la Fed, elle ne veut pas ramener l'inflation à zéro, à deux. Car si l'inflation passe sous deux, là, c'est le monde d'avant. C'est le monde des taux zéro de 2008 à 2020. Elle ne veut pas refaire ça, la Fed. L'inflation nominale selon le PCE est à 2,5. Ce vendredi 27 septembre. Ce vendredi 27 septembre. Moi, je suis très optimiste pour l'inflation nominale ce vendredi 27 septembre. Je vous annonce, on aura du 2,3. Peut-être du 2,2. Allez, du 2,3. Et puis, ensuite, en novembre-décembre, nous aurons du 2, du 1, du 2. Donc, nous sommes à la cible de la Fed. Et là, il ne faut pas passer en dessous. Voilà en fait pourquoi la Fed a pivoté. Pour le chômage, ça peut en surprendre plus d'un, mais elle dit, OK, le chômage a progressé, mais c'était conjoncturel, mais c'était saisonnier. D'ailleurs, au final, le taux de chômage reste très bas. Alors, elle a remonté son seuil d'alerte à 4,4% de la population active. Au-delà de ce seuil, OK, récession ahead, perhaps. Bon, alors, je reprends ça avec vous. Je vous fais tout mon topo avec mes indicateurs avancés d'inflation pour vous expliquer que vous pouvez être optimiste ce vendredi 27. Les indices boursiers américains, US, je les reprends avec finalement mon décompte Elliottiste toujours en place. Je suis assez content. Je vous redonne les niveaux techniques, les invalidations, tout ça. Et je vous fais un topo en dernière partie sur le marché action chinois, qui est revenu à la case départ, c'est vrai. Il est revenu à la case départ du début d'année où je vous l'ai conseillé, et je vous le reconseille. Je vous le reconseille. Pour des raisons techniques et fondamentales. Donc c'est ce que nous regardons ensemble. Chers auditeurs, chers spectateurs, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs sur YouTube, comment est-ce qu'on appelle une personne qui regarde des vidéos sur YouTube, d'ailleurs, dont je fais partie. Inflation PCE, Reality Check Post-Fed, ce vendredi 27 septembre. Le programme, je vous l'ai décrit à l'instant à voix haute. Le voici donc à l'écrit. La Réserve fédérale a donc enclenché un cycle baissier du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, s'alignant ainsi sur les autres banques centrales occidentales. Le pari de la Fed est d'accompagner un retour de l'inflation à 2% dans un cadre macroéconomique de soft landing. C'est le monde idéal, c'est le monde rêvé. Et la Fed y croit, toujours, malgré ce que nous avons observé cet été sur le taux de chômage aux États-Unis. La mise à jour ce vendredi 27 septembre du PCE sera un premier reality check. Les anglo-saxons adorent la haute finance américaine, aiment beaucoup le reality check. C'est-à-dire qu'on peut avoir une anticipation d'un cadre macro, il faut que les chiffres confirment. Première partie, les nouvelles anticipations macro de la Fed. Deuxième partie, pourquoi je suis optimiste pour le PCE nominal de ce vendredi 27. J'ai bien dit le PCE nominal, car la version sous-jacente risque de rester sous tension. Indice boursier américain, le tour d'horizon technique. Baisse des taux d'intérêt, le suivi graphique. Il y a un petit rebond à court terme, mais plus tard, dans quelques semaines, la baisse reprendra. Et indice boursier chinois, oui, c'est une opportunité technique et aussi fondamentale. Voilà donc ce dont nous allons parler dans cette nouvelle édition du Top Gun. Les nouvelles anticipations macroéconomiques de la Fed et la raison de son pivot. Eh bien, au stade actuel, la Fed a pivoté donc pour la bonne raison. Vous avez sous les yeux donc le taux d'intérêt des fonds fédéraux des United States of America. Et la Fed a donc procédé à un jumbo Fed cut, c'est-à-dire qu'elle a baissé donc de 50 points de base, de 5,5 à 5 son taux directeur. Alors, cela rappelle quand même que le taux d'intérêt est encore élevé, que nous sommes encore loin même d'être revenus. Ça, c'est ce que vise la Fed. Vous savez, 2,5, le taux d'intérêt directeur de 2,5 est considéré comme étant un taux neutre, ni restrictif, ni favorisant l'expansion. La Fed envisage de l'atteindre d'ici le courant de l'année 2026. Donc vous voyez que les choses vont se faire progressivement. Mais finalement, c'est bon ça pour le marché action. On ne veut pas une politique monétaire qui change, qui pivote de manière urgente, agressive. Car si ça avait été le cas, si c'était le cas, et si ça devait devenir le cas, cela serait le signe d'une urgence, donc une réponse à un choc, et le marché n'aime pas ça. Le marché action a besoin de visibilité, d'un rythme bien équilibré entre l'axe du temps et l'axe des prix, quelque chose sous contrôle. Pour le moment, en fonction des datas, les choses restent sous contrôle. Alors, déjà, première étape, donc premier reality check, ce vendredi-là, dans quelques jours, vendredi 27, l'inflation PCE en version nominale a intérêt à baisser. Elle est à 2,5, il nous faut avec du 2,4 grand max et idéalement du 2,3. Si c'est le cas, tout ira bien. Vous allez voir que la tendance boursière, la tendance haussière du marché action va se poursuivre. C'est pour ça que, voilà, c'est le premier chiffre vraiment important de la semaine. Donc, le taux d'intérêt, donc le pivot a eu lieu. Alors, un pivot, il y a eu dans le passé de nombreux pivots. Hein. D'ailleurs, la Fed pivote plus ou moins au niveau des taux qui avaient été atteints ici en 2007-2008. Ici, à l'époque, elle avait pivoté pour la crise financière. Là, ce que nous a dit la Fed la semaine dernière, c'est qu'elle ne pivote pas pour la récession économique, elle ne pivote pas pour la crise, elle pivote parce que l'objectif d'inflation est en vue. L'inflation a fait des progrès substantiels et surtout, voilà ce qui a rassuré le marché, le taux de chômage reste bas. The unemployment rate has moved up but remains low. C'est tout ce que la haute finance voulait lire. Remains low. Voilà. Donc ça, c'est le scénario idéal. D'ailleurs, si nous débriefons ensemble, les nouvelles mises à jour de la Fed, en matière d'anticipation macro, la Fed croit à quelque chose d'idéal. En 2024, croissance du PIB réel des États-Unis 2%. En 2025, 2%. en 2026, 2%, en 2027, 2%, en 2028, 2%, je déconne. Donc voilà, voyez-vous une récession ici? Là, je vous parle du résultat du travail des 350 économistes embauchés par la Fed. Alors, le taux de chômage, là, les choses ont changé. La Fed a revu en hausse son taux de chômage pour 2024 et 2025 à 4,4% de la population active. C'est son nouveau seuil d'alerte, mais d'après elle, nous n'irons pas plus haut à horizon 2 ans. Donc, pas de récession selon la Fed. Et à côté de cela, elle a révisé en baisse ses anticipations d'inflation PCE. C'est pourquoi je voulais faire le top gain sur ce sujet. L'inflation PCE, j'y viens juste après avec mes indicateurs avancés, est mise à jour ce vendredi 27 septembre. Alors attention, l'inflation PCE est mise à jour ce vendredi 27 septembre, mais elle concerne le mois d'août. C'est toujours ça le problème avec le PCE, il y a toujours un décalage d'un mois, deux mois. En plus, les données temps réel mettent 6 mois à aller dans l'indice officiel. Tout ça, vous le savez, je l'ai répété 1000 fois. Mais laissez-moi, dans la partie qui suit, vous expliquer pourquoi je suis optimiste. La Fed nous dit que d'ici la fin d'année, le PCE sera à 2,3. Là, il est à 2,5. Le PCE nominal, donc distinguez bien le PCE médian, mais limite le médian on s'en fout. Distinguez bien le PCE nominal du PCE sous-jacent ou core. Le PCE nominal est à 2,5. La Fed nous dit qu'il sera à 2,3 d'ici la fin d'année. Moi je vous dis qu'il sera à 2,3 peut-être dès ce vendredi ou le mois prochain. Notez-le, je vous dis qu'il sera à 2,3, allez 2,4 dès ce vendredi. Si j'ai tort, bah j'ai tort, on verra bien, on en reparle lundi prochain. Par contre, l'inflation sous-jacente, la Fed l'attend résiliente et pour un certain nombre de sujets qui sont liés à la composition du PCE. Le PCE du vendredi 27 septembre en premier reality check post-Fed. Alors, pour se projeter sur l'inflation, il faut déjà comprendre comment l'inflation est composée. Je vous ai remis à droite un tableau qui compare les composantes dans l'inflation selon le CPI et le PCE. Cette semaine, nous nous intéressons au PCE. Pourquoi est-ce que je suis optimiste? Pourquoi et d'ailleurs, cet optimisme, hein, je vous l'ai décrit tout au long de l'été, et je suis assez content de voir que finalement, je ne suis pas trop trompé hein, au regard de ce qu'a proposé la Fed et au regard de la réaction positive, au moins initiale, qu'il y a eu sur le marché actions et les actifs risqués. Bon, on va travailler donc la composition du PCE. La Fed de Jérôme Powell a donc pivoté la semaine dernière, donnant ainsi le point de départ d'un cycle baissier de ses taux d'intérêt, un cycle dit de monetary easing qui va se développer ces prochains mois. Tout l'enjeu est de déterminer les conditions pour que cela soit un soutien au marché actions et au marché obligataire. La Fed de Jérôme Powell estime avoir toujours le contrôle de la situation globale macro. Rappelez-vous, la haute finance, le marché actions n'aime pas les situations globales macro dites hors de contrôle. Avec un régime des prix qui revient autour des 2%, et une croissance économique suffisante pour préserver l'emploi, le scénario bisounours. Si ce combo gagnant se confirme dans les faits, alors cela sera, je plaisante, un facteur de soutien au marché actions qui, au passage, est déjà très cher en termes de valorisation. Ça, j'en dis un mot lorsque je passe à la partie technique sur les indices US. La Fed a donc précisé une trajectoire monétaire pour les prochains mois. Cette trajectoire pourra être respectée si les données macroéconomiques le permettent. Le premier pilier à respecter est un retour de l'inflation à 2% d'ici la fin de l'année, sans que cette dernière ne bascule sous la cible de la Fed. Selon Trueflation, nous sommes déjà sous 2%. Ça, c'est un problème. Vous voyez, maintenant, c'est devenu un problème, l'inflation trop basse. Le second pilier est le maintien d'un taux de chômage bas, et pas pas. Ça, c'est une erreur de frappe. Pour maintenir la consommation des ménages, le moteur primaire de la croissance économique réelle américaine. Ce vendredi 27 septembre, vous avez donc la mise à jour du PCE. La composante inflation sera suivie. Alors, dans le PCE, il y a deux choses. Dans le PCE, vous avez la composante inflation et vous avez la composante inflation et vous avez la composante dépenses de consommation des ménages. Et lorsque vous regardez donc le vendredi 27 septembre, la mise à jour attendue du PCE, il faudra aussi regarder. Donc la composante inflation, c'est le PCE Price Index qui est à 2,5 actuellement. Et moi, pour lequel j'envisage qu'il tombe à 2,4 ou à 2,3, mais vous avez aussi la composante dépenses de consommation des ménages. Et je vous rappelle que la consommation des ménages, c'est 70% du PIB américain. Donc, pour le scénario idéal du soft landing et des inflations, il faut non seulement avoir une croissance positive sur le mois des dépenses de consommation des ménages, et en même temps une composante inflation, l'inflation PCE, qui baisse. Elle est à 2,5. Alors, elle est donc actuellement à 2,5, et moi je pense qu'elle va baisser à 2,4 ou 2,3. Ma conviction vient du fait que j'ai travaillé en détail les indicateurs temps réel des différentes composantes majeures de l'inflation, la composante logement, la composante soins médicaux. C'est ça d'ailleurs, la composante soins médicaux qui fait la grande différence entre le PCE et le CPI. La composante assurance, et oui, et ça c'est très important, les assurances automobiles notamment qui pèsent un gros poids dans le PCE, et là c'est un sujet car les assureurs continuent de se gaver. Et ensuite, bien sûr, la composante énergie. Alors la composante, pour ce qui est des composantes, alors, déjà, l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland nous annonce un 2,33. Moi, vous voyez, je vous annonce entre 2,3 et 2,4, d'après mes calculs. Bon. L'algorithme de la Fed de Cleveland nous dit qu'on va tomber à 2,3. Et pour la mise à jour de septembre, mais qui aura lieu en octobre, rappelez-vous le décalage. Le chiffre de septembre, là, c'est pas celui de cette semaine. Là, ce vendredi 27 septembre, c'est le chiffre d'août. Le chiffre de septembre, où le PCE est attendu à 2,07. 2,07, c'est la cible de la Fed. Mais il faut pas passer en dessous. Vous savez, dans deux mois, on va arriver à un sujet. Mince, l'inflation est trop basse. Les marchés sont fous. La haute finance est drivée par n'importe quoi. Bon. Mais ça va être comme ça. D'ici deux mois, ça va être, l'inflation est trop basse. On va revenir à ce qu'était l'obsession entre 2008 et 2020. Et ça va très vite. Ça va après quand même quelques mois. Mais donc, ce chiffre-là du vendredi 27 septembre, c'est donc le chiffre du mois d'août. Il est attendu à 2,33 selon l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland. Alors, moi, je me suis donc tourné vers les différentes composantes. Et là où je pense vraiment qu'on peut avoir quelque chose de sympathique, c'est que l'inflation immobilière, je vous ai déjà expliqué que dans les faits réels, elle est à 0. Or, dans le CPI, elle s'est maintenue à 5. Ça va prendre encore du temps et c'est possible que ça mette la pression à la hausse sur le PCE. Mais dans le PCE, vous voyez que ça pèse moins que dans le CPI. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les soins médicaux pèsent 20% dans le PCE. Eh bien, je suis allé voir les soins médicaux donc en temps réel en utilisant Trueflation. Et en août, le taux d'inflation des soins médicaux, il est passé de 3, donc il est tombé à 2,96. Alors que le mois d'avant était à 3,45. Donc ça, déjà, ça va aider. Alors, au passage, Trueflation est à 1,17. Alors, l'inflation, tout ce qui est inflation des transports, tout ce qui est inflation énergétique, je vous ai fait un Fast and Forex la semaine dernière sur la déflation énergétique, le taux de variation du pétrole, de l'énergie, le taux de variation du prix des voitures, le taux de variation des aliments, boissons, on est négatif largement sur le prix du pétrole et à zéro sur l'alimentation, boissons et prix des voitures. Donc au final, nous sommes négatifs ou à zéro sur plus ou moins déjà 40% du calcul du PCE. Les soins médicaux, eux, on voit qu'ils ont baissé de 3,45 à 2,90 en temps réel. Donc ça devrait permettre quelque chose de sympathique dans le PCE de ce mois d'août, qui est mis à jour ce vendredi 27 septembre. Vous avez bien suivi. Alors par contre, il y a un autre problème qui est celui des assurances auto. Et là, malheureusement, les données qu'on a observées récemment montrent que les assurances ont encore un taux d'inflation énorme à deux chiffres. Ça va être un sujet. Et ensuite, reste toute la catégorie des services. Les services, c'est 61% du PCE. L'inflation des services reste haute, mais elle continue lentement et sûrement de reculer. Par contre, ça va prendre du temps. Alors, ne vous fiez pas à l'inflation des services de Trueflation, qui est à 1, qui est à 0. Hein. Mais parce que son problème, c'est qu'elle ne pondère pas assez le coût des assurances. Donc voilà, moi mis l'un dans l'autre, mon anticipation pour ce vendredi 27 septembre est un PCE nominal qui tombe au minimum à 2,4, voire à 2,3, et un PCE sous-jacent, il va falloir patienter encore pour que les données immobilières arrivent, les données immobilières temps réel arrivent enfin dans les données officielles, et pour que l'inflation des assurances finisse par petit à petit s'aligner sur le taux d'inflation des véhicules, des voitures qui est déjà à zéro. Donc voilà, ce sera donc le premier reality check ce vendredi 27 septembre. Et maintenant, si nous parlions du marché action américain, tour d'horizon technique d'un marché très cher sur le plan de la valorisation. Effectivement, je vous ferai un topo plus précis la semaine prochaine, mais effectivement, le marché action US est très cher sur le plan de la valorisation. Tout d'abord, alors les données viennent de FactSet, vous avez ici le price earning ratio forward du S&P 500, où nous sommes ici au-dessus de la moyenne des 5 dernières années, au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Nous ne sommes pas, par contre, encore au niveau de ce qu'avait été le PE forward du S&P 500 au plus haut du bull market des taux zéro de post-crise sanitaire. Mais le marché est quand même largement plus cher et au-dessus de ces moyennes. Alors, on peut voir ça aussi en regardant, par exemple, du côté du price earning de Shiller. Le PE de Shiller, donc la valorisation du marché action américain, a rapporté aux bénéfices passés à retraiter de l'inflation. Sur 10 ans, nous sommes largement au-dessus de la moyenne, même au-dessus d'un écart type au-dessus de la moyenne. Le PE de Shiller atteint 36. Nous sommes pas loin des records de la bulle de 2021. Alors, c'est pas vraiment une bulle. Enfin, c'était la remontada des taux zéro. La remontada des taux zéro, je parle de cette phase-là. Hein. Voilà. Donc, en termes de valo, nous ne sommes pas loin de ce qu'avait été ici le top de marché fin 2021. Sur le S&P 500. Donc le marché action américain est effectivement cher en termes de valorisation. Alors après, ce sont essentiellement les stars de la tech. Vous avez aussi, et je vais tout à l'heure revenir sur ce tableau lorsqu'on va parler du marché action chinois, selon le Warren Buffett Indicator, la market cap totale du marché action américain représente presque 200% du PIB américain. Selon Warren Buffett, lorsque nous sommes au-dessus de 150%, c'est une bulle spéculative. Bon, la Chine, c'est tout le contraire, j'y viens juste après. Donc, déjà, ayez ça en tête, nous sommes sur un marché action américain très cher. Oui, mais ça n'a jamais empêché de monter. Il y a toujours eu cette prime du marché action US. Alors, sur le S&P 500, je refais comme d'habitude mon tour d'horizon de tous les horizons de temps. Donc, en données mensuelles, je n'ai toujours pas de divergence graphique de long terme. Tant que je n'ai pas une divergence sur mon graphique de long terme, comme on a eu ici en 2021, en 2018, en 2014, en 2007 ou en 2000, la tendance de fond reste haussière. En données hebdomadaires, je suis toujours dans ce que je vous propose, la construction de ma vague 5, après avoir donc terminé ici la vague 4 en août dernier. Alors, vague 4, alors rappelez-vous que la vague 3 a été terminée en hebdo début juillet avec cette divergence. La div a été dégonflée, nous sommes quasiment repassés par les 50, nous sommes repartis, donc nous sommes toujours en tendance haussière. En données journalières, quels sont les nouveaux seuils d'invalidation? Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, cette bougie n'est pas clôturée, d'accord? J'enregistre la vidéo avec un peu d'avance par rapport à la fin de la semaine. Donc, moi j'estime que mon scénario d'une vague 5 tient toujours la route. Donc, nous sommes dans cette cinquième vague de hausse. Cette cinquième vague de hausse, elle-même qui va se construire en 5 temps. Un premier temps, une vague 2, une 3 de 5, une 4 de 5, une 5 de 5. Les vagues impulsives se construisent toujours en 5 temps. Donc, nous serions donc dans le troisième temps de la grande 5 et ce scénario, pour moi, me paraît juste tant qu'on se maintient au-dessus du gap, le gap haussier que le contrat futur a ouvert la semaine dernière. Alors, ça peut paraître un peu serré, effectivement, si, par exemple, vous prenez les enseignements du système Ichimoku, il y aurait davantage de place pour retracer tout en restant haussier, puisqu'en données journalières, nous sommes au-dessus de la Tenkan-sen, au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage. Mais, disons que, selon moi, si on devait combler le gap et repasser en dessous, eh bien, j'aurais quand même des sérieux doutes sur le fait qu'on soit déjà en vague 5 et peut-être que nous serions en fait encore en train de construire une vague 4 complexe. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Serions peut-être encore en train de construire une vague 4 complexe. Donc, c'est sur cette petite note de prudence hein, que j'insiste. Mais voilà, tant que nous nous maintenons donc au-dessus de ce gap sur le contrat futur S&P 500, eh bien, nous pouvons y croire. Alors, avec la Fed qui a pivoté, j'estime toujours qu'il y a un joli potentiel de rattrapage sur les small et mid cap, sur l'environnement des valeurs cycliques, avec petit à petit, alors oui, le mouvement est erratique, mais petit à petit, un Russell 2000 qui reviendra vers 2350 points, 2480 points, et je ne serais pas surpris que ces prochains mois, nous ayons un breakout haussier de cette résistance sur le Russell 2000, qui va beaucoup plus que les stars de la tech US profiter de ce cycle de monetary easing qui est donc devant nous. Alors, baisse des taux d'intérêt, le suivi graphique. Baisse des taux d'intérêt, le suivi graphique. Alors là, pas de... Moi, je suis toujours dans mon scénario qui consiste à dire que nous avons fait le même signal ici qu'en 2019, le Death Cross. Impeccable. Alors attention, à court terme, sur le 10 ans américain, il y a des divergences. Divergences que l'on relève aussi sur le 2 ans américain. Le 2 ans américain qui est quand même sur cette grosse zone de support. Donc moi, si vous voulez, je pense que là, on peut faire un petit rebond technique et ensuite baisser ici. Petit rebond technique et ensuite baisser ici. Et sur le 10 ans américain, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on peut faire ici un petit rebond technique, venir chercher SMA 50 et ensuite, d'ici la fin de l'année, retomber ici. Les 3,25. Et lorsque vous passez donc en données hebdomadaires, et là je suis vraiment content parce que ça fait tellement de mois et de mois que je vous proposais ce scénario, ça fait tellement, rappelez-vous, quand on était ici, je vous disais, j'attends d'avoir ce signal pour dire qu'on ira plus bas, pour dire que c'est fini la hausse des taux, ça, je l'ai mis en avant mille fois ce système Ishimoku, et j'ai eu mon signal en juillet dernier, le basculement sous le nuage, la lagging span qui confirme, et donc je vous dis moi que après ce petit rebond technique qu'on peut faire ici vers les 3,90, vers les 4,10 peut-être, que nous irons à 3,25. Cherchez ce niveau-là et cherchez aussi donc la moyenne mobile ici à 200 semaines. Oui, selon moi, encore une fois, les indices boursiers chinois sont une opportunité technique, une opportunité fondamentale, à la différence du marché actions US. C'est un marché vraiment pas cher. Tout à l'heure, je vous ai montré le PO de Schiller du S&P 500. Je vous ai remis ici en bleu. Donc le price earning de Schiller du S&P 500 qui est à 36 et qui est proche de rejoindre le niveau qu'il avait atteint fin 2021. Vous avez ici un graphique qui juxtapose le PO de Schiller du S&P 500 et le PO de Schiller du CSI 300, de l'indice de Shanghai, des 300 plus grosses valeurs chinoises. Il est à 13. Et c'est archi pas cher. Alors me direz-vous, oui, c'est la Chine. Oui, la Chine a du mal à relancer sa consommation des ménages. C'est vrai. La Chine fait tout son possible sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire, pour rebooster sa consommation des ménages. Je pense que ça finira par payer. Et donc, je pense ça peut être intéressant de mettre un petit billet sur ce scénario d'une remontée ces prochains mois du marché action chinois. Vraiment pas cher sur le plan de la valo. On le voit aussi à travers le Warren Buffett Indicator, où effectivement, si vous avez le marché action américain qui représente 200% du PIB des États-Unis, le marché action chinois représente 49% de son PIB seulement. Il est sous-coté. Même l'Inde est à 110%. Donc je pense vraiment que sur le plan fondamental, ce marché action chinois est une opportunité. C'est une opportunité sur le plan fondamental. Et c'est aussi donc, là je suis en train de me perdre partout, hein, c'est une opportunité sur le plan fondamental, et je pense aussi que c'est une opportunité sur le plan technique. Si vous prenez l'indice de Shenzhen, voilà, nous sommes, alors oui on n'y est pas encore tout à fait, mais vous voyez, c'est la zone basse de long terme, c'est vraiment la zone basse de très long terme. Tôt ou tard, vous voyez, cycle baissier pump, on a eu ici une première tentative qui a avorté. Mais je pense qu'il y en aura une seconde et ce sera la bonne, avec toutes les mesures de soutien du gouvernement chinois. Et bientôt, il y aura une dive en plus ici, sur l'indice de Shenzhen. Il y aura une dive. Donc, vous voyez, là, toute cette zone-là qu'on travaille, pour moi, là, c'est une opportunité, mettre un petit billet ici. Alors, je vous en ai parlé en début d'année. OK, on est revenu à la case départ, mais je vous dis, mais rebelote. Les stratégies de long terme prennent du temps. Et la configuration technique sur Shanghai est très similaire. Voilà, chers amis, la nouvelle édition de Top Gain est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. Et encore, pour les plus gentils d'entre vous, vous abonnez, même si je sais que c'est... Bon, on n'a pas envie de forcément s'abonner à toutes les chaînes. Allez, merci, et on se voit cette semaine pour le Fast and Forex.